Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heure passée de quelques secondes aujourd'hui sur Radion. Bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire, 368e numéro de votre rendez-vous culturel sur votre radio locale. Alors, à quelques jours de Noël, nous marquons l'arrivée de cette fête avec une invitée qui écrit de nombreux recueils de contes, mais aussi des romans. Et je suis particulièrement heureux de l'accueillir aujourd'hui sur les banquettes de Wagon Livre. Elle a fait la route depuis le département de la Côte d'Or, depuis l'Hiernais où elle réside, et elle est ce matin devant notre micro. Pauline Barroyer, bonjour et merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour Yannick, et merci à vous de m'avoir invité.
Alors c'est un plaisir partagé, Paul. Nous nous sommes croisés à plusieurs reprises dans différents salons du livre en Bourgogne, notamment à Autun, en avril 2017. J'avais eu le plaisir d'enregistrer un petit entretien avec vous lors de la 20e fête du livre d'Autun. Et puis nous nous sommes revus plus récemment à Saulieu, à l'occasion de la fête du livre de Saulieu. C'était en octobre dernier.
Vous êtes un fidèle des salons du livre.
Et j'essaie autant que faire se peut de me rendre dans les salons et d'y dénicher des auteurs bourguignons pleins de talent, pleins d'émotions aussi, qu'ils partagent à travers leurs livres et avec leurs lecteurs. Alors, question un peu rituelle de cette émission, Pauline. Alors, Pauline Barroyer, je le précise, c'est un nom de plume. Pour l'état civil, vous êtes Paul Bertrand.
Voilà.
J'ai révélé, non pas un secret, mais cela me semble important.
Pas du tout.
Je voudrais aussi souligner que vous animez un blog absolument remarquable, érudit. Et j'ai vérifié encore ce matin avant de vous rencontrer, à partir d'un moteur de recherche, vous tapez tout simplement Paul, Paul au féminin, Paul de Bourgogne, et vous arrivez sur le site qu'anime donc notre invité, Paul de Bourgogne, souvenir littéraire à faire renaître à la faveur d'images. D'ailleurs, la dernière publication date d'il y a une bonne semaine maintenant, et notamment le 6 décembre, vous vous étiez arrêté sur la légende de Saint-Nicolas.
Oui, ces chansons d'autrefois m'ont toujours enchantée. Je pense que je suis de la génération qui a appris beaucoup de chants à l'école. Et puis j'ai été cheftaine de Louveteau.
Alors je rappelle aussi que vous avez enseigné et défendu notre belle langue, puisque oui, vous êtes agrégée de lettres. Alors Pauline, vous êtes l'auteur d'un grand nombre de contes et vous avez extrait un certain nombre de ces contes. C'est des contes de Noël qui nous intéressent ce matin. Et on va peut-être commencer par une première lecture parce que c'est très rare qu'un auteur lise ses textes à notre micro. Alors on vous écoute, Pauline. Voici donc un conte extrait de votre recueil « Les contes du bas Persan ». Et ce conte a pour titre « Quand Renard va à la messe ».
Quand Renard va à la messe. Le long bâtiment de la ferme près du pont se termine par un appentis couvert de chaume. La porte à claire-voie, avec son guichet à glissière tout en bas, indique assez que c'est là un poulailler. Voilà d'ailleurs le petit berger qui vient fermer la porte, non sans avoir vérifié que les poules sont juchées sur leur échelle sous la garde du coq perché tout en haut. Dans le soir qui tombe, la cheminée fume, le vieux Philibert active le feu de l'âtre, pousse la grosse bûche au cœur du brasier. Ah, et des gerbes d'étincelles émaillent un instant le fond noir de la marmite. Quand, le matin, Jeanne vient libérer sa volaille et répandre au sol le grain de son cabas, elle s'étonne de ne point entendre caqueter sa volaille. Le guichet est quelque peu soulevé. La porte ouverte laisse entrevoir le désastre. Plusieurs poules manquent. Le coq est parti. La poule rousse aux gros œufs picassés n'est plus là. Une traînée de plumes indique la voie du larcin. Au cri de la fermière, Jean, alerté, se hâte et constate « C'est encore un tour de renard !» J'ai entendu se plaindre les gens de la ferme du Haut, de la ferme du Moulin, de la ferme du Fourneau. Il nous faut faire une guerre sans merci au Goupil. Cependant, tous les jours, les villageois sont sur la route. Ils montent en devisant vers la chapelle Notre-Dame de Grâce. Car le jour n'est pas à traquer le rusé. Le 8 septembre est consacré au pèlerinage annuel. La foule chemine en priant. Il y a tant à demander à la bonne mère. Mais les premiers arrivants vont au-devant d'une belle surprise, tandis que le prieur installe les vases sacrés sur l'autel. Un pèlerin des plus inattendus est déjà là, la tête inclinée, apparemment en grande repentance. Il tient le bourdon de Saint-Jacques et sur sa poche et fixer une coquille, la coquille des pèlerins. Mais la capuche ne parvient pas à masquer le museau pointu de renard. Il se tient là, en suppliant, il a beau jeu le rusé. Il sait que les hommes ce jour-là s'avancent sans bâton ni armes et que les chiens ne sont pas admis dans le cortège des pèlerins. Quand l'ite missa est est chantée, renard est déjà loin. Mais sur le chemin du retour, les discussions deviennent violentes. On s'interroge sur les deux fermes qui n'ont pas été visitées. Quelqu'un parle de renard à deux pattes. D'autant que les marchés d'Autun n'ont jamais été aussi bien achalandés en poules et en poulets. Pourtant, les deux poulaillers épargnés jusque-là ont été visités à leur tour. Et pendant le pèlerinage, justement. Ainsi, la renarde avait mission de prendre le relais et de profiter de l'absence des fidèles pour parfaire le pillage commencé par renard. Mais hélas, la guerre est désormais au village et ne s'éteindra pas de sitôt. Le soir, le vieux Philibert, contrarié, a rappelé le dicton favori de sa grand-mère. Quand renard va à la messe, la rage est au village. En effet, la querelle a semé ses graines de violence dans les cœurs. La jalousie règne dans les chaumières à présent, d'autant que le temps de l'entraide est moins contraignant dès lors que le travail du fléau dans la grange est fini. Autant des labours, chacun pour soi à tenir la charrue. Oh, c'est le règne des soupçons. La pluie et le vent resserrent les gens au logis et ce que fait le voisin n'a plus d'intérêt. Pourtant, le temps d'éveiller revient déjà, mais chacun reste près de son âtre. Plus de chansons, plus de jeux, plus de rire. Philibert tresse son panier en ronchonnant. On n'allume même plus le falot pour rejoindre les voisins et filer, ou sculpter un bâton, ou tricoter ensemble devant les flammes du foyer. Noël approche. Et Philibert a déjà choisi la grande souche qui brûlera toute la nuit dans la cheminée sous les landiers et donnera une bonne chaleur au retour de la messe de minuit. En la posant de côté, Philibert hoche la tête en entendant la cloche des chanoines qui appellent aux prières de complis. Ils vont chanter à l'unisson de leur belle voix grave, tandis que la désunion est au dehors. Ce soir, du 24 décembre, la neige s'est mise à tomber dru. Le chemin du prieuré est bien glissant. De cette nuit sans lune tombe un rideau blanc de flocons. Le vieux Philibert avance, courbé, avec prudence. D'une main, il tient sa lanterne, de l'autre, un solide bâton de noisetier qu'il a si joliment sculpté. Devant lui marche Marthe, de la ferme du Fourneau, à qui son mari interdit de parler à Philibert. Soudain, c'est la chute,
de cette pauvre femme. Vite, Philibert tente de la relever. Sans y parvenir, il appelle à l'aide et tous se précipitent. On la porte à l'église, on l'installe sur un siège de fortune. Tous les gens du village sont autour d'elle, debout, émus de voir tant de lumière. Les lumières des chandeliers font se mouvoir des ombres qui animent les voûtes. Les chanoines entonnent « Adeste Fideles ». La cloche sonne pour fêter la naissance de l'enfant roi. Peu après, au sortir de l'abbaye, la neige crisse sous les sabots. La lumière des lanternes danse sur le tapis blanc. Les rires fusent, c'est la paix de Noël et l'amitié retrouvée.
Magie de Noël et magie aussi de la création littéraire. Quand Renard va à la messe, un conte de Noël écrit et lu par son auteur Pauline Barroyer, qui est aujourd'hui une invitée de Wagon Livre sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On marque une première pause musicale et on se retrouve juste après.
Je ne te promets pas la lune, juste la mer au coin des yeux. Je te promets pas la fortune, mais juste assez pour être heureux. Je te promets pas d'avancer, mais juste de regarder devant. Je te promets pas de rester, je me fous d'où me porte le vent. C'est comme ça qu'on vit, comme ça qu'on perd. On regarde les gens se taire, on n'a pas besoin de route, peu m'importe ce que ça coûte, ça j'en sais rien, on y a juste entre les gouttes, sous l'orage ou la foudre, tant qu'on est loin, tant qu'on est loin, oh, 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 tant qu'on est loin, oh, oh, oh. Je ne te promets pas d'aventure, je ne sais pas conduire de voiture. Je boirai plus que de raison. Entends-tu le bruit des glaçons? Je ne t'ai jamais dit que je t'aime, je ne t'ai jamais dit pour de bon. Tu sais, l'amour ça rend bohème et la bohème me rendra con. C'est comme ça qu'on vit, comme ça qu'on rêve. On regarde les gens se plaire, on n'a pas besoin de.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Pauline Barroyer est notre invitée ce matin, cette fin de matinée à bord de Wagon Livre. Elle est l'auteur de plusieurs romans. On mentionnera Les Sycophantes, paru aux éditions La Cassine, dont tous les droits sont donnés d'ailleurs à cette association. Un petit rappel, Pauline Barroyer, Les Sycophantes, c'est un mot grec. Qu'est-ce que veut dire Les Sycophantes? On le trouve d'ailleurs, je crois, dans une chanson de Georges Brassens.
Très juste, vous savez tout. Oui. Les Sycophantes, c'étaient les dénonciateurs au temps d'Athènes. Le mot mot à mot, ça signifie les dénonciateurs, ceux qui parlent des figues. La figue était un fruit vraiment sacré pour la ville, pour la cité, au point qu'il était interdit d'en vendre à l'étranger. Et celui qui tombait sous le coup de la loi et qui avait vendu des figues, s'appelait celui qui parle des figues, le Sycophante.
Et puis,
oui, et pour nous, ça signifie le dénonciateur. Mais maintenant, c'est au sens péjoratif.
Donc, Les Sycophantes, c'est le titre de votre deuxième roman. Le deuxième roman, pardon, c'est Délices et Désillusions.
Oui.
Là, c'est une affaire plus grave.
Oui.
C'est l'histoire d'un officier de cavalerie en retraite qui se retrouve dans le château de sa famille et qui souffre du froid et qui a du mal à rester dans ce château. J'ai fait simple au niveau du résumé de l'intrigue.
Très bien, c'est surtout sa femme qui était habituée aux villes de garnison et qui se retrouve dans le château des ancêtres et qui ne s'y plaît pas.
Revenons avec vous avec un autre conte de Noël que vous avez écrit, Pauline Barroyer. Vous allez nous en donner lecture et ce conte a pour titre « L'ânesse du chapelain ».
L'ânesse du chapelain. On ne sut jamais bien comment le chapelain du village avait réussi en ce temps-là à rendre ses paroissiens meilleurs. Était-ce sa bonté exemplaire qui finissait par ruiner les tentatives du malin à faire sombrer les gens dans la faute? Toujours est-il que de la rue Serrurier à la rue Rateau, vous n'auriez pas trouvé un artisan qui eût exigé plus d'argent que n'en valait son travail. Les surveillants des champs eux-mêmes, qui d'ordinaire étaient si complaisants à l'égard des intendants du Seigneur, s'efforçaient de soutenir l'intérêt des laboureurs et des manouvriers. Le meunier ne prenait que ce qu'il avait droit de prendre pour la mouture. Et le forgeron avait cessé de battre son petit commis. Que le sacristain ait renoncé à détourner les fruits que le chapelain espérait récolter dans son verger avait été certes un peu plus difficile. Il était pourtant devenu honnête. Les hommes ne juraient plus, sauf quand leur charrette était embourbée jusqu'au moyeu. Quant aux femmes, croyez-le bien, elles tenaient leur langue, n'oubliant jamais ce que le brave curé avait dit si souvent en chair. Tournez cette fois votre langue en la bouche avant de dire du mal du voisin. Oui, en un mot, le diable n'y trouvait pas son compte. Il se retirait souvent dans son fauteuil de pierre là-bas, bien plus loin que la gravotière, et il y ruminait les pires malédictions contre ces niais qui se laissaient si facilement prendre au discours d'un chapelain ignare. Même s'il refusait de s'avouer vaincu, il lui fallait pourtant admettre son échec chaque fois qu'il avait pu croire la partie gagnée. Rongeant son frein, il regardait autour de lui. La saison s'avançait dans la douceur encore, quoique Noël ne fût pas loin. Noël ? Mais à Noël, il lui sembla que l'idée qui venait de germer dans sa tête cornue était enfin propre à le venger de ce chapelain insensible à toute tentation. Le village a bien des traits du paysage morvandiau. Il ne lui manque ni colline ni rude montée. Aussi, le chapelain avait-il dû, depuis bien des années déjà, adopter une ânesse pour le conduire dans les écarts de sa paroisse. Il l'avait appelée mignonne, tant ses yeux aux reflets dorés avaient d'intelligence et de bonté. Le cornu, donc, attendit la soirée, où chacun se prépare pour assister à la messe de la Sainte Nuit.
il prit l'apparence du sacristain et se glissa dans la petite écurie où, paisiblement, la mignonne mangeait le picotin qu'on lui avait préparé, plus abondant que d'ordinaire, en souvenir de l'âne de la crèche. Il lui expliqua, avec force geste et en contrefaisant sa voix, que lui, sacristain, ne pourrait pas chanter à la messe de minuit, étant malade, avec une voix rauque, comme elle pouvait l'entendre. Et puisque la parole lui serait donnée à elle ainsi qu'à tous les animaux, dès le premier coup de cloche à la messe de minuit, il lui serait facile de chanter de sa grande voix des « Amen » sonores. L'ânesse hésita quelque peu, mais elle aimait tant être agréable aux autres que, inclinant la tête, elle donna son assentiment. Oh oui, elle saurait remplir la nef de l'église de répons qui honoreraient l'enfant Dieu. Et puis, juste entre les 12 coups, l'épreuve ne serait pas longue. Messire le chapelain serait surpris et content. Et de partout, des hameaux, comme du cœur du village, de petits groupes s'acheminent, la lanterne à la main. L'église est illuminée de tous les cierges qui flamboient sur les autels. Tous sont déjà en place, debout, dans la nef, quand la cloche sonne, le premier coup de minuit. L'ânesse alors se ferait un passage que les paroissiens ne lui refusent pas penser. Elle, dont l'ancêtre a réchauffé Jésus. Et aussitôt que le chapelain finit de psalmodier son introïte, elle lance le braiement le plus discordant, bien propre à déchirer l'oreille des paroissiens et du curé, qui n'y comprennent rien. Elle ne peut même pas s'expliquer car le 12e coup a déjà sonné et il y a un tel brouhaha autour d'elle. On la refoule, on la frappe, on la jette dans la nuit. Pourtant, avant de quitter l'église, elle a eu le temps de voir le sacristain aux côtés du chapelain. À sa place de chantre, l'ânesse a compris qu'elle avait été jouée. Comment n'avait-elle pas deviné le mauvais tour du malin? Comment avait-elle été assez vaniteuse pour se croire capable de chanter? Tête basse, n'osant retourner à son écurie, qui fleurait bon le foin, elle partit droit devant elle et suivit le chemin du moulin. Fourbue, elle allait mettre les genoux en terre pour se coucher et remâcher à loisir ses remords, quand une silhouette se dressa devant elle, immense, malodorante et vaguement luisante. C'était le diable, celui que les paysans appellent le peu, pour sa laideur maléfique. Ne dites plus jamais bête comme un âne, vous seriez dans l'erreur. Mignonne rassembla très vite ses idées. Pour se tirer de ce mauvais pas, elle avait voulu faire l'ange. Elle n'avait fait que la bête. Et c'est en bête qu'il lui revenait de se mesurer au malin. Sa sottise avait été de se croire au-dessus de sa condition. Elle allait y revenir à cette condition d'animal réputé inintelligent. Oh, l'autre n'avait pas le triomphe modeste, bien que sa victoire fût de piètre envergure. L'ânesse feignit l'épuisement du moribond et s'enquit de la personne qui venait là la secourir. Il ricana l'autre. « Conduisez-moi seulement au bord de la digue de la Gravotière où je vais mourir.
À votre service, pauvre bête !» répliqua le malin, dont le sourire démasquait les dents jaunes. En rien de temps, et voici au bord de l'eau, l'un plus flamboyant que jamais, l'autre comme exténué, et tandis que le diable regardait au loin du côté du clocher avec un rire triomphant, voilà Mignonne qui se tourne à la hâte en bonne place et vous lui décochez un de ses coups de sabot. Le malin s'en fut, tournoyant jusqu'au milieu de l'étang. Sa chute y provoqua un sifflement pareil au fer rouge que le forgeron plonge en l'eau. Et l'on vit une vapeur s'élever un instant pour disparaître aussitôt. Mais non, le diable n'en mourut point. Il attendit simplement que la génération du chapelain disparaisse pour revenir en force. Alors, le successeur du maréchal eut beau jeu de battre son petit commis et les femmes de se complaire à médire.
Merci Pauline Baroyer. Un texte, un conte de Noël lu et écrit par notre invité, l'ânesse du chapelain. Si vous venez de nous rejoindre, c'est Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et on se retrouve avec notre invité dans une poignée de minutes.
Dans tous ces naufrages, notre histoire en nage n'est plus celle que l'on imagine. Le vol des signes, comme on n'a pas gommé les nuages passés, des orages qui s'enracinent, ouais, le vol des signes. Mets tes mains dans les miennes, on mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol des signes. Ancienne adresse, l'inconnu, tendresse, manquait tant à notre estime, on suit le vol des signes.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci de votre fidélité et merci de nous accompagner en cette fin de matinée à bord de Wagon Livre avec notre invitée Pauline Baroyer. Pauline Baroyer qui signe des recueils de contes, également des romans. Je rappelle qu'elle vit à Liernay, en Côte d'Or, et qu'elle est ce matin devant notre micro et je l'en remercie encore. Pauline Baroyer, vous allez nous lire un conte que vous avez écrit, que l'on trouve d'ailleurs dans le recueil « Les contes de la Gravotière ». Et ce conte a pour titre « La nuit où les bêtes parlent ».
La nuit où les bêtes parlent. Du pont Ribon jusqu'à Montaut, il n'y a pas une lieue. On passe par Jonchère,
Puis on côtoie le Bas-Person et on arrive chez François, au bord du chemin qui va à Villers. Cette année-là, le sorcier avait quitté sa cabane juste derrière le vieux pont et avec son gros sac sur l'épaule, il était parti pour Montaut, empruntant ses raccourcis familiers, sans craindre de mauvaises rencontres puisque c'était lui que les gens craignaient, lui dont on ne parlait qu'à demi-mot, car on avait peur des catastrophes qu'il se vantait d'être à même de provoquer. Le puits qui tarit, la vache qui dépérit, le feu de cheminée qui enflamme le toit de chaume. On avait beau implorer la bonne dame de grâce à la chapelle de Bar, il semblait que son pouvoir maléfique était tout puissant et on ne savait lui résister. On avait surtout une grande frayeur de le voir arriver dans le village avec une meute de loups. Le bruit courait qu'il était meneux de loups en hiver. S'il paraissait dans la cour, dans cette terrible compagnie, il fallait lui fournir aussitôt toute la soupe de la marmite, sans se plaindre, heureux qu'il reparte aussitôt. On n'en avait aucune certitude, mais il fallait être prudent. Lorsqu'il frappa à la porte de François, les lanternes étaient déjà sur le seuil, car on se préparait à descendre à la messe de minuit, que le chapelain dirait dans la chapelle de Montaut. La nuit était tombée depuis longtemps, mais la lune éclairait de haut les congères étincelantes qui bordaient le chemin. Le vieux sorcier se dressait dans sa grande cape noire devant le houx, aux troncs entrelacés, et il demanda le gîte pour la nuit. Et il prétendit être allé chanter aux vigiles de Noël à Blano. Il était trop las pour assister à la messe de minuit. Que François lui ouvre donc la grange pour qu'il y dorme en paix. Pendant que Louise encapuchonnait ses petits-enfants, François fit tomber du fenil une fourchée de foin pour le confort de l'intrus et il lui recommanda de prier pour le repos de ses défunts parents pendant la nuit sainte. Il rejoignit alors les siens, dont les silhouettes sombres se détachaient déjà sur la lumière du feu de cheminée. Et ils s'en furent, tapant régulièrement les sabots contre les pierres de la route pour se débarrasser des pâtons qui s'accumulaient sous leurs semelles de bois. En passant près des maisons, ils étaient rejoints par les autres, Jeanne, André, Marie, et Pierre, et Gabriel, et la petite troupe avait fort grossi lorsqu'on entra enfin après avoir heurté les sabots au seuil de la chapelle. Lucie, la plus proche voisine, avait aidé le marguillier à allumer tous les cierges et les paroissiens clignaient des yeux devant une si belle illumination, eux dont les maisons étaient si sombres. Laissons-les, ces bergers et bouviers qui chantent de leur belle voix sonore, Adeste fideles. Laissons-les croire en un peu de bonheur le temps de leur messe. Dans l'écurie de François, contiguë à la grange, le sorcier du pont Ribon entendait ruminer un bœuf et comme il avait froid, il décida de s'y installer. François avait justement préparé une bonne litière de paille pour son âne et son bœuf. Le sorcier s'installa tout bonnement entre les deux animaux et eut aussitôt la sensation d'une bonne tiédeur. Il s'assoupissait déjà lorsque la cloche aigrelette de la chapelle sonna le début de la messe de minuit. À ce moment, l'âne se mit à parler à son compagnon. « Enfin un peu de temps pour parler. Depuis un an que nous attendons la minuit de Noël. Qu'as-tu à me raconter ?»«
Bah rien, tu le sais bien. Moi, je n'ai pas eu la chance de travailler pour le meunier de la Gravotière. Tu en connais des clients ?» Tu en as entendu des histoires, cherche-m'en une dans ta mémoire. Je suis sûr que je t'ai déjà dit 100 fois l'histoire du four des fées, mais avec ta grosse tête toujours penchée vers la terre sous le joug.
Tu ne retiens rien. Ben, je recommence donc. Tu sais qu'entre la gravotière et Chape, s'élèvent au fond des bois d'énormes pierres. Il y a le fauteuil du diable, le four des fées et le rocher de la Dame Blanche. Les petits bergers qui allument du feu pour se réchauffer dans la cavité des fées sont loin de se douter que la nuit du 1er janvier, entre les 12 coups qui sonnent au clocher de Sanceré, le fauteuil du diable pivote et laisse apparaître des richesses fabuleuses, des pièces d'or et des pierreries. Ben, si tu le sais, d'autres le savent. Alors pourquoi nul ne s'en est encore emparé, puisque les hommes ont toujours faute de telles richesses? Ah, c'est que le diable y a mis des conditions effrayantes. Il ne livre son or que si on lui livre une bonne âme en échange. Et encore faut-il se munir d'une sorte de talisman pour que l'or acquis ne porte malheur. Il s'agit d'un petit galet blanc qu'on peut trouver dans la cascade de la Gravotière. Il suffit de le placer au pied de la pierre du diable quand elle pivote. Et pousser au bon moment l'autre pour qu'il y reste enfermé. Le sorcier n'avait garde de dormir. Il savait désormais ce qu'il ferait dans la nuit de Saint-Sylvestre. Et quand François vint à l'écurie, le matin de Noël, il était déjà sur le chemin des bouleaux, en route vers la Gravotière. Ah, c'est là qu'il rencontra le brave Barthélemy de Baroyer. Le pauvre homme portait sur son dos un sac de seigle au moulin. Il se plaignait que la récolte ne ferait pas la soudure. Il se tenait courbé, tant du poids de son sac que de ses soucis. Ah, le sorcier vit là une chance inespérée, c'était son homme. Il lui promit la fin de ses malheurs s'il pouvait seulement se trouver devant la chaise du diable la nuit du 1er janvier. Barthélemy s'y engagea ferme. La perspective de quelques pièces d'or le faisait déjà chanter Deo Gracias. Aussi, dès le lendemain, il courut revoir le site. Le fauteuil du diable était désert, le four des fées noirci par les feux d'automne. Seule la pierre de la Dame Blanche lui parut belle, car un rayon furtif l'éclairait. Ah, la Dame Blanche! Mais c'est Notre-Dame, pardi, pensait-il. Il sortit alors son beau couteau d'acier et grava une croix sur le devant de la pierre, sous le rayon du soleil. Et il y revint chaque jour en remerciant la bonne Vierge. Vint le moment fatidique. Les deux hommes étaient bien avant minuit debout devant ces grandes pierres, des origines du monde. Le vent soufflait avec violence, en faisant vibrer les troncs d'arbres comme des tuyaux d'orgue. La neige ne tombait plus et le gel en faisait briller les cristaux. Mais on ne se souciait pas du froid. On attendait que sonne la cloche. Soudain, en même temps que l'air se mit à vibrer de la puissante musique du clocher, un grincement effrayant déchira l'atmosphère et soudain, une lumière parut, mince d'abord, puis éblouissante, derrière le rocher. Brutal, le sorcier se précipita, intimant l'ordre à Barthélemy d'attendre son tour. Quand le gros sac fut plein, 10 coups avaient déjà sonné. Le brave Barthélemy entra et prit quelques pièces dans sa poche et une pierre bleue qui étincelait. Or, le sorcier avait retiré son galet blanc et commençait à fuir. Le dossier du fauteuil allait se rabattre quand la lune se mit à nimber la pierre de la Dame Blanche en même temps que s'arrêtait le mouvement grinçant. Barthélemy sortit, sa main serrant sa poche. Le fauteuil reprit sa place. Et soudain, un hurlement se fit entendre, tandis que le sorcier courait au ruisseau jeter son gros sac qui brûlait. L'or n'étaient plus que des charbons ardents. Le lendemain, Barthélemy s'en fut porter sa pierre bleue à la statue de Notre-Dame dans l'église de Sancerre. Une pièce fut offerte au meunier pour la restauration des objets de sa grosse roue et le reste permis de remplir le grenier de bon grain.
Un conte de Noël écrit et lu par son auteur, Pauline Baroyer. C'était La nuit où les bêtes parlent. Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. On marque une nouvelle virgule musicale et nous nous retrouvons juste après avec notre invité.
Façon de parler, de me tenir droit. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Toutes les blessures trouvent une place dans les mémoires. On partage le même territoire. La même peur du reflet dans le miroir. Si la méfiance est héréditaire, au nom de nos pères. Parce qu'on est tous un peu pareils. On se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble parce qu'on ne s'aime pas. Qu'il soit celui qu'on chuchote, celui que l'on crie, que ce soit son nom qu'il le porte ou qu'il crève anonyme, qu'il soit de ceux qu'on acclame ou de ceux qu'on regarde sans voir, qu'il porte la flamme, qu'il s'éteigne seul dans le noir. Parce qu'on est tous un peu pareils, on se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble parce qu'on ne s'aime pas. Parce qu'on est tous un peu pareils. On se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. Lorsqu'on est tous un peu pareils. On se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. Un peu pareil, on se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble parce qu'on ne s'aime pas.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous voici de retour ce matin avec notre invitée Pauline Baroyer pour une émission consacrée à des lectures de contes de Noël. Pauline Baroyer, puisque nous parlons de Noël, de la magie de Noël, avez-vous des souvenirs forts de Noël de votre enfance? Comment viviez-vous cette fête en famille?
Et nous étions une famille nombreuse, j'avais une sœur et trois frères. Et c'était notre bonheur d'être ensemble. Et je me souviens que ma tante, chez mes grands-parents, avait des petits oiseaux en verre filé avec une queue de soie qu'elle avait accrochée au sapin. C'était d'une beauté. Je ne retrouve pas ça dans ce que je vois maintenant. Et pour moi, Noël, c'est pas la complication, les achats, etc. Je me souviens de ce fablier de Benjamin Rabier, qui datait du début du siècle, hein, qui a été écrit en 1905 par là, mais qui se vendait encore dans l'autre moitié du siècle. Et c'était un bonheur. Les livres étaient pour nous un bonheur. Nous avions chacun un livre. Voilà. Et pour moi, Noël, c'est ça. C'est la joie de vivre, le fait d'être ensemble, la famille retrouvée.
Donc vous avez grandi au milieu des livres et maintenant vous en écrivez notamment des recueils de contes, des contes de Noël que vous avez la gentillesse ce matin de lire à notre micro sur Radion à bord de Wagon Livre. Et tout de suite, nous vous y écoutons nous lire un conte qui a pour titre « Le Noël de Frère Gautier ».
Le Noël de Frère Gautier. On parlait volontiers, tant à Chevannes qu'à Montaut, de ce moine cordelier qui s'était construit un abri rudimentaire dans le voisinage de la chapelle Sainte-Marguerite et semblait vouloir y vivre en ermite. C'était le frère Gautier, en effet, qui avait choisi de rester à l'ombre de cette chapelle et il lui semblait que sa nouvelle existence se calquait sur celle de Saint-François d'Assise. La saison était belle et chaque nouvelle journée le comblait de joie car il la recevait comme un présent de Dieu. Il y menait une vie de solitaire, éperdu de bonheur, à laisser s'élever ses prières dans la compagnie des oiseaux. Mieux, ses chants semblaient en harmonie avec ceux de la grive musicienne et du loriot. Jamais on n'avait été plus proche de l'esprit de frère François. Aussi bien vite, le panier de vivres que lui portait le jardinier des religieuses de Chevannes lui sembla fort peu correspondre avec l'existence qu'il avait choisie. Il y renonça. Il chercha alors sa nourriture dans la nature que le bon Dieu a si largement dotée. La vie quotidienne avait son charme. Il se plaisait à cueillir des simples pour en faire des bouquets qu'il pendait au-dessus de sa couche. Et son logis en était agréablement parfumé. Il savait même confectionner des galettes en broyant les grains des épis glanés dans les champs. Mais les laboureurs du hameau les auraient qualifiés de pain de disette. Il cuisait aussi des brouets de noix, mangeait des asperges sauvages, des champignons selon l'époque. Et il buvait l'eau de la source de la chapelle. La mère supérieure du couvent de Chevannes avait respecté sa volonté, toutefois. Voyant la saison s'avancer, elle avait prié le jardinier de se rendre à l'ermitage pour mettre en garde le frère Gautier contre les rigueurs de l'hiver du Morvan. Mais devant son entêtement, elle avait finalement convaincu un charbonnier du voisinage de renforcer les murs et le toit de l'ermitage avant que la saison des pluies d'automne ne le rende trop inhospitalier. L'hiver du pays de Saint-François ne saurait se comparer à celui de Paris et encore moins à celui du Morvan. « À brebis tondues, Dieu mesure le vent », dit le proverbe. En effet, l'arrière-saison fut délicieuse. Les feuilles sont restées longtemps vertes, tardant à se rouiller. Il ne tomba que des pluies fines qui firent pousser les ceps à foison. Une chevrette, harcelée par des chiens de chasse, était arrivée tout courant jusqu'à l'ermitage et frère Gautier lui avait ouvert sa porte. Avec cette compagnie et les aménagements apportés à son gîte, malgré qu'il en eût, la vie était fort agréable. La chèvre broutait les feuilles de roncier alentour et son nouveau maître avait tout loisir de lui récolter des herbes sèches pour l'hiver. À la Saint-Nicolas, le mauvais temps semblait encore se faire attendre. C'est à la Sainte-Luce que tout changea. Les grands vents d'hiver se mirent à souffler furieusement. Tout autour de la chapelle, de grosses branches s'étaient abattues dans la tourmente. Frère Gautier en avait profité pour faire une réserve de bois. Mais ces bûches humides brûlaient difficilement, donnant plus de fumée que de chaleur. Puis un froid cuisant s'était installé après d'abondantes chutes de neige. La nature restait silencieuse, comme ensevelie. Bientôt, des hurlements se firent entendre au loin, tandis que la lune faisait étinceler les cristaux de neige accrochés aux branches noires des chênes. La faim ramenait les loups près des habitations. Le gibier s'étant raréfié. Les plus hardis rôdaient alentour des hameaux, mais
Les paysans faisaient bonne garde et tenaient leurs animaux soigneusement enfermés dans les étables et les bergeries. Or, ce soir-là, frère Gauthier ne le passerait pas comme à l'ordinaire. C'était la veille de Noël. Il avait jeté sur son foyer la grosse bûche, choisie depuis longtemps pour cette veillée sainte. Il l'avait dès l'été mise à part et couverte de genêts et de fougères sèches. Il psalmodiait des prières en regardant le beau feu qui éclairait son humble logis, puis avait pris son rebec, un peu délaissé depuis l'arrivée de la chevrette. Toute la douceur du monde s'était réfugiée dans ce pauvre logis en cette fin d'après-midi sombre. Une mélodie pleine de grâce emplissait l'espace et l'on eût dit que le petit animal en goûtait le charme. Frère Gauthier s'imaginait en compagnie des bergers de ces pays lointains qui, en des temps tout aussi lointains, somnolaient autour d'un feu rougeoyant quand les anges les avaient appelés pour être les premiers témoins de la crèche. Soudain, la chèvre s'est dressée et, en hâte, s'est réfugiée près de l'ermite, comme affolée. Frère Gauthier n'eut pas même le temps de lui caresser la tête pour la calmer que, déjà, un piétinement inquiétant était perceptible autour de l'ermitage. Le souffle qui passait sous la porte disjointe ne laissait plus de doute à frère Gauthier. Un loup était là et déjà ses hurlements appelaient le reste de la meute. Il avait flairé la présence de la petite chèvre et ses coups de tête menaçaient la porte. Il avait dû se dresser de toute sa hauteur contre la paroi car on entendait ses pattes en griffer le bois. Elle ne résisterait pas longtemps à de si violents assauts. L'ermite, aperçu par la lucarne qui avait été ménagée pour donner un peu de jour, la tête énorme d'un vieux loup. Maintenant la meute s'approchait, on en percevait la galopade. La prière de l'ermite semblait bien impuissante. La porte allait céder. Frère Gauthier se souvint qu'il fallait prendre un tison pour effrayer les bêtes, mais la grosse souche flambait seule dans son âtre. Soudain, alors que l'assaut semblait au point de vaincre la résistance de la porte, le vent se leva, apportant le son de la cloche de l'église de Chevannes qui appelait les fidèles à la prière avant la messe de minuit. Subitement, comme si les loups avaient été vaincus par une force surnaturelle, le silence se fit. Et par la lucarne, le frère Cordelier vit s'enfuir la meute à la suite du vieux loup et disparaître dans la nuit. Alors, l'ermite prit son bâton et, suivi de sa chèvre, marcha longtemps dans la neige gelée jusqu'à l'église du couvent de Chevannes. C'est alors qu'au 12e coup de minuit, les paroissiens, debout dans la nef, s'écartèrent, surpris, pour laisser passer un homme en robe de bure, suivi d'une chèvre qui s'agenouilla devant la crèche, tandis que le prêtre entonnait « Adeste fideles ».
Merci Pauline Barroyer pour la lecture de ce conte dont vous êtes l'auteur, « Le Noël de frère Gauthier ». On arrive pratiquement au terme de cette émission, Pauline. Je rappelle les titres de vos recueils de contes, pas forcément dans l'ordre chronologique, je m'en excuse. Les contes du porc pendu, les contes de Champ-la-Fille, les contes de la Gravotière, les contes du Colombier et les contes du Bas-Persan. Tous ces textes, ainsi que votre roman « Les Sycophantes » et l'autre roman « Délices des illusions » sont disponibles aux éditions La Cassine, des droits que vous reversez à cette association. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Pauline Barroyer, et à vous souhaiter, bien évidemment, un excellent Noël. Merci d'avoir partagé ces textes et ces lectures avec les auditrices et auditeurs de Wagon Livre sur Radion.
Eh bien, cher Radion, c'est moi qui vous remercie mille fois de m'avoir invité.
J'ai toujours grand plaisir à parler devant un micro pour une radio, car j'ai travaillé un petit peu au temps des radios libres devant un micro. Et je voudrais souhaiter un joyeux Noël à tous vos auditeurs, et je leur souhaiterais si volontiers de retourner lire les fables de La Fontaine. Et le mieux, ce serait encore qu'elles soient éditées par Benjamin Rabier.
Le message est passé. Encore merci Pauline Barroyer. Très bon Noël à vous. Très bon Noël bien sûr à toutes celles et tous ceux qui ont eu la gentillesse de nous suivre aujourd'hui. La semaine prochaine, dernier numéro de Wagon Livre, samedi 29 décembre, nous vous proposerons un entretien avec Camille Pascal, qui est agrégée d'histoire et qui est l'auteur d'un roman historique intitulé L'été des quatre rois, roman qui a reçu le grand prix du roman de l'Académie française 2018. Et en fait, Camille Pascal raconte la révolution de 1830 et notamment cet été 1830 au cours duquel la France a connu dans son histoire quatre rois. Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe. C'est au programme de Wagon Livre la semaine prochaine. Et puisque certains de vos contes parlent des loups, notamment du renard, mais aussi de son cousin le loup, je voudrais juste mentionner, c'est actuellement disponible en librairie aux éditions Sutton, un essai de Philippe Berthelangereau, morvandiot du côté de Saint-André-en-Morvan, qui signe un tout nouvel ouvrage intitulé « Les loups dans le Morvan ». Merci d'avoir été avec nous. Très bon Noël encore, convivial, en famille, avec celles et ceux que vous aimez, un bon Noël gourmand, des valeurs simples, pas besoin de luxe, mais surtout sincérité. Et puis la foi, rappelons tout de même que Noël est une fête chrétienne. Merci à notre invitée Pauline Barroyer. Pardon Pauline. Au revoir et à la semaine prochaine.